allez écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième émission des Pieds dans le Parc, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui habitent et qui font vivre ce beau territoire du Mont Ventoux. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de la sensibilisation à l'éducation, à l'environnement et au territoire. Et pour m'accompagner sur cette émission, ma co-animatrice, bonjour Anne.
Bonjour.
Ravie de te retrouver pour cette émission Les Pieds dans le Parc numéro 4.
Mais merci, bonjour.
Et nous avons des invités pour cette émission. Nous avons Laurence Veillard, chargée de mission éducation au territoire et développement durable au SMAEV. Bonjour Laurence.
Ben bonjour Florian.
Nous avons aussi Ken Reyna, chef de projet du parc naturel régional du SMAEV. Bonjour Ken.
Bonjour.
Nous avons aussi l'association Ventoux Passion Nature avec Daniel Villanova. Bonjour.
Bonjour.
Donc accompagnateur en montagne. Nous avons aussi Mireille Gravier, agricultrice et membre du réseau Racine PACA. Bonjour Mireille.
Bonjour à tous.
Et nous avons aussi Virginie Bigonnet, qui est professeur de Provençal pour la sauvegarde de la langue provençale. Bonjour Virginie.
Bello, bonjour.
Voilà, donc pour cette émission, nous allons tout d'abord commencer par un sujet qui est très important et qui actuellement fait plus ou moins, les communes votent voilà, jusqu'à début décembre. C'est avec Ken que nous allons faire le point sur le projet du parc naturel régional du Mont Ventoux. Peut-être faire le point actuellement sur le vote des communes pour l'approbation de la charte du parc.
Alors oui, c'est vrai que nous sommes dans la dernière ligne droite de création du futur parc naturel régional du Ventoux, le 9e de notre belle région. Depuis cet été, les communes, les intercommunalités et le département de Vaucluse sont appelées à voter. Elles disposent de 4 mois pour cela et c'est vrai que ce délai se termine fin novembre, début décembre. Aujourd'hui, nous en sommes avec nous avons obtenu un résultat assez positif, hein, puisque sur les 39 communes du périmètre, 31 ont délibéré favorablement pour voir se concrétiser et pouvoir aboutir enfin le parc naturel régional du Mont Ventoux. 31 communes sur 31 qui ont voté, pour l'instant aucune délibération contre. Il reste donc encore 8 communes qui vont se prononcer. On attend leur position avec beaucoup d'impatience. Et puis parallèlement à cela, le département de Vaucluse a lui aussi délibéré en faveur du parc, ainsi que les intercommunalités. 3 intercommunalités ont également donné leur avis favorable, que sont la Cove, Ventoux Sud et la communauté de communes des Sorts du Comtat. Donc voilà, on est quand même sur un bilan extrêmement positif aujourd'hui et je pense qu'enfin on peut tous en réjouir.
Et que va-t-il se passer si les communes ne délibèrent pas, si certaines communes parmi le projet du parc ne délibèrent pas?
Alors c'est très clair, hein, c'est cadré par le code de l'environnement et le code des collectivités. Si les communes ne délibèrent pas, ça veut dire que leur avis est négatif, qu'elles refusent leur adhésion au parc, qu'elles refusent l'acceptation de la charte et donc elles ne seront pas labellisé, classé en tant que parc naturel régional.
D'accord, et puis peut-être on peut parler des avantages de ce parc naturel régional du Mont Ventoux. Qu'est-ce qu'il va apporter pour les communes une fois que c'est passé, une fois que ça a été voté favorablement? C'est quoi la seconde étape?
Alors, il y a les étapes et puis ce que ça va apporter dès l'année prochaine. Les étapes, ça veut dire qu'une fois que les communes ont fini ce tour de consultation, la région va délibérer le 13 décembre en assemblée plénière pour demander le classement. Donc c'est vraiment la dernière délibération du territoire pour demander le classement du Ventoux en parc naturel régional. Et puis après cela, ça veut dire que c'est une instruction qui est faite par le ministère qui va se précéder une audition à Paris où on va pour la dernière fois devoir défendre notre dossier. Et puis on attend avec beaucoup d'impatience, encore une fois, le décret de classement du parc, un décret qui est signé par le Premier ministre. Donc vous voyez un petit peu, ça donne l'ambition aussi de ce projet, qui est un projet local avec une portée nationale. La deuxième partie de votre question, c'était, il va se passer quoi, hein? C'est déjà un cadre d'action, hein, où on travaille tous ensemble, hein, élus, collectivités, associations, habitants, entreprises, pour préserver nos patrimoines et développer un peu un bon père de famille, hein, notre territoire. L'idée, c'est pas de la mise sous cloche, bien au contraire, c'est vraiment faire en sorte que nos patrimoines naturels, culturels, paysagers, nos savoir-faire, qui sont le reflet de notre identité, puissent être des moteurs de développement économique et des créateurs d'emplois. Voilà. Donc le parc, c'est aussi ça, hein, c'est une action collective qui pousse dans ce sens-là pour que tous ensemble on arrive à préserver ce beau joyau qui est le Ventoux et puis qu'on continue à y vivre.
Alors, va-t-on pouvoir suivre toute l'actualité de ce parc naturel régional du Ventoux, l'évolution, les étapes, on va pouvoir le suivre sur un site internet?
Alors, en effet, oui, que ce soit les votes ou au niveau de la procédure, à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.smaemv.fr, les habitants du Ventoux peuvent suivre, les auditeurs peuvent suivre, en effet, l'avancée des votes et puis les prochaines étapes qui vont se dérouler. Voilà.
Merci Ken.
Merci à vous.
Je vais maintenant me tourner vers Laurence. Laurence Veillard, aujourd'hui l'émission est consacrée donc à la sensibilisation, à l'éducation, à l'environnement et au territoire. Et vous, au sein du SMAEB, vous êtes chargée du programme pédagogique éco-citoyenneté et solidarité à l'école et au collège. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela consiste ?
Alors, donc, éco-citoyenneté et solidarité à l'école, au collège et aujourd'hui au lycée, en fait, c'est un programme pédagogique qu'on propose donc aux établissements scolaires de ce territoire. Et du coup, aujourd'hui, au niveau du territoire du projet de parc, mais en fait, on le propose déjà également depuis 12 ans, puisque le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux porte également une réserve de biosphère. Donc, en fait, c'est un projet qui est en place depuis 12 ans. Ça fait maintenant donc à peu près, je peux dire qu'on a touché plus de 20 000 élèves donc depuis ces 12 années. Donc on s'adresse aux enseignants et on travaille avec un réseau de partenaires. Donc aujourd'hui, on a deux structures qui nous accompagnent sur cette émission. Donc elles vous présenteront ce qu'on fait. Donc au niveau là du... donc évidemment, ça va évoluer avec le projet de parc, c'est-à-dire que maintenant on travaille avec les lycées, ça c'est une demande de la région évidemment. Donc le projet de le programme pédagogique a été ouvert aux lycées, il y en a 5 sur le territoire, mais également il y a une ouverture aussi au niveau de, puisqu'à travers le plan climat la région propose à tous ses établissements donc scolaires de lycées de mettre à minimum au moins que chaque lycéen vienne une fois dans un parc sur sa scolarité. Voilà. Donc, depuis cette année, on peut accueillir en fait les lycées de la région PACA.
Et quel lycée, par exemple, vous avez accueilli ou vous allez accueillir ?
Alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'en début d'année, on a déjà travaillé avec le lycée Victor Hugo. Donc, sur des sorties liées à la découverte, par exemple, là, on était plus sur de la géologie, du paysage. Donc, il y a Mireille Gravier, par exemple, qui est intervenue sur ces sorties. Donc, ça peut être vraiment très divers. On peut travailler, moi, je leur propose de travailler, que ce soit au niveau du Ventoux, sur la biodiversité, sur l'eau, sur le développement durable. Ça peut être... la préservation de les éco-gestes, il y a aussi tout ce qui est les valeurs du développement durable. On travaille avec par exemple une association humanitaire. Bon, voilà, c'est extrêmement divers. C'est vrai que l'enseignant a le choix et c'est vraiment à lui de faire son projet au début de chaque année. Donc moi, je suis à leur écoute et c'est un travail qui est fait ensemble. Voilà.
Alors, quel est l'objectif peut-être global de l'ensemble de ces actions ? Est-ce qu'il y a un objectif global ? On parle... Alors, il faut bien insister aussi, ce n'est pas de l'éducation, mais c'est plutôt de la sensibilisation. C'est vraiment le terme aussi que vous voulez insister.
Bon. En fait, on a plusieurs publics et c'est vrai que l'éducation, c'est un terme qui est employé au niveau du public scolaire. Après, sur des publics, le grand public ou les socioprofessionnels, on parle plus de sensibilisation. Voilà, c'est la nuance qui est faite.
Très bien. Merci Laurence. Nous allons maintenant peut-être s'intéresser à un autre sujet. On va maintenant aller avec l'association Ventoux Passion Nature. Alors Daniel Villanova, vous allez voir Daniel Villanova, c'est un puits de science, puits d'histoire. Bonjour Daniel, rebonjour.
Rebonjour. Non, pas puits de science, non. Non, on fait juste de l'éducation à l'environnement et c'est quand même assez large puisqu'on est aussi bien sur de la faune que sur de la flore, que sur de la géologie. Moi, j'aime à dire que l'accompagnateur en montagne, c'est un médecin généraliste, c'est-à-dire qu'on est très généraliste. Et quand on veut aller sur quelque chose qui est plus pointu, eh bien, on va plutôt se rapprocher, d'un biologiste, de quelqu'un qui connaît mieux la flore, qui connaît mieux l'ONF, par exemple, sur la forêt. Mais nous, par contre, on va avoir un discours sur le milieu rural ou sur l'ensemble de ce que l'on a autour de nous, généraliste. Ensuite, les accompagnateurs en montagne, donc il y a aussi Pierre Perret qui est absent aujourd'hui, qui est sur le Mont-Serein. On est aussi là, entre guillemets, une garante, garante de la sécurité, entre guillemets, puisque tout ce qui est au-dessus de 1500 mètres d'altitude, tout ce qui va être ce qu'on appelle environnement spécifique, les gorges Annès, les gorges Toulourinque ou d'autres gorges, on va mettre des professionnels qui sont formés là-dessus. Et sur le Mont Ventoux, on a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. Si on part du sommet à 1909 et qu'on descend sur le Piémont, sur ce petit espace de 600, d'un peu plus de 1000 mètres, pardon, de dénivelé, on va avoir les caractéristiques de quasiment ce qu'on a à 3000 mètres d'altitude quand on est dans les Alpes du Nord et quand on redescend jusqu'à 1100 mètres. Donc on voit bien que sur un petit volume qui est le Mont Ventoux à 1909 mètres, on va avoir quelque chose qui est caractéristique, qui va être lié quasiment au sommet un petit peu glaciaire avec des changements de température assez variables, hein, plus 50, moins 50 avec les variations de vent, 320 km/h de vent sur le sommet du Ventoux dans les années 60. Donc on voit bien quand même que c'est quelque chose qui est assez spécifique. Et cet environnement, eh bien, nous, accompagnateurs en montagne, avec Pierre, on va apporter cette partie sécurité pour les scolaires.
Alors justement, les scolaires, quel est le public que vous touchez ?
Alors on touche du public, comme tous nos collègues présents autour de cette table, qui va de 4 ans jusqu'à à peu près entre 11 et 13 ans, suivant les activités. Et puis après, nous, par l'association, on va aller toucher du public beaucoup plus âgé, hein, puisqu'on va aller sur d'adultes et voire sur des personnes plus âgées, toujours dans cette thématique d'éducation à l'environnement. C'est-à-dire en préservant la nature et puis en sachant ce que l'on fait. Et j'ai une tendance à dire randonner autrement, randonner en apprenant.
Lecture de paysage, c'est ce que vous faites peut-être sur vos ateliers, l'éducation à l'environnement ?
Oui, on en fait un petit peu parce que Mireille est beaucoup plus spécialisée là-dessus. Elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais nous, on en fait aussi parce qu'on va faire rentrer le milieu rural à l'intérieur et en disant ce Mont Ventoux, comme il est là aujourd'hui, est-ce qu'il était pareil quand il y avait les Romains qui étaient présents ? Quelles étaient les forêts primaires qui étaient présentes sur le Mont Ventoux ? Et comment l'évolution s'est faite avec nos éleveurs, nos agriculteurs, nos lavandiculteurs, et puis la variation des paysages qui sont liés. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le village d'Aurel, on va être sur de la truffe, et alors qu'avant on était sur la lavande, et ces paysages sont en train de changer, et l'homme travaille ces paysages, avant la géologie, la nature l'a déjà travaillé.
Et justement aussi, est-ce que la faune évolue ?
La faune évolue, exactement. On va faire rentrer, par exemple, différents critères. On va parler d'introduction, de réintroduction, on va parler de retour naturel, on va parler de renforcement de population. Tout ça, c'est quoi ? Prenons le cas, par exemple, du cerf. Le cerf avait complètement disparu dans les années 50. Et puis, les chasseurs, grâce à eux, ils nous ont remis du cerf sur le Ventoux dans les années 54. Et ça nous permet d'avoir une population aujourd'hui qui est intéressante. En contrepartie, quand la population a augmenté, eh bien, on a un retour naturel qui s'est fait, par exemple, du loup. Parce que il avait simplement à manger, donc il a pu s'installer. Et bien sûr, son premier repas, c'est le cerf, puisque pour nourrir une meute, il préfère avoir un cerf qu'un lapin. Donc on voit bien. Et puis on a, par exemple, un autre animal qui est arrivé très récemment, il y a quelques années en arrière, qui s'appelle la genette. Et là, par contre, on parle de conquête de territoire, c'est-à-dire que c'est un animal qui n'a jamais été présent et qui arrive tranquillement. Il est arrivé d'Espagne, en passant par le Portugal, les Pyrénées. Il est remonté dans la région de Montpellier. Et puis, il est arrivé chez nous il y a quelques années en arrière. Et là, il est en train de se développer. Voilà un petit peu ce qu'on fait aussi comprendre aux enfants, mais aussi aux adultes, ces différentes perceptions que sont l'introduction, la réintroduction, le retour naturel, le renforcement de population. Si on prend le cas de l'ours, bon, on n'en a pas ici, mais l'ours dans les Pyrénées, c'est un renforcement de population. On n'est pas du tout dans un retour naturel ou autre chose. C'est une population qui est en train de mourir. On a pris une population extérieure, on l'a mélangée avec la population existante, ce qui permet de stabiliser une population.
Le mouflon, le sujet du mouflon.
Alors le mouflon c'est un animal qui introduit lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été présent sur le Mont Ventoux, aussi loin qu'on peut remonter dans les lectures. Donc les lectures de paysages, on les a en grattant un petit peu les pierres, en grattant un peu les ossements. Donc on n'a pas de présence de mouflon. Il a été mis en place par les chasseurs pour avoir un autre gibier à chasser sur le Mont Ventoux. Il s'est très bien adapté puisqu'il est parfaitement adapté sur le Mont Ventoux. La petite différence différent, c'est que quand il y a eu le grand prédateur qui est arrivé comme le loup, bah, ça a été un des premiers à être impacté. Il est toujours présent aujourd'hui, hein. On a encore une population d'une cinquantaine de mouflons, voire un peu plus, hein, dans la région. Le tout est savoir où est-ce qu'ils sont. Donc ils ont bougé, les comportements changent, hein. Le retour du prédateur, ça a changé les habitudes de ces grands animaux, entre guillemets, que sont les cervidés ou les prédateurs. Et à un moment donné, bah, avant, ils vivaient en groupe. Aujourd'hui, ils se sont dispersés. Ils ont augmenté leur surface de population en descendant, par exemple, vers les piémonts et plus sur les hauteurs et en s'écartant là où était le loup. C'est pour ça qu'on tend à dire qu'ils ont disparu ou qu'on les voit moins. Mais non, non, quand vous êtes sur le terrain, je peux vous garantir qu'on les voit et on les voit toujours.
Et concernant, justement, je vais revenir sur le loup, est-ce que pour vous, en tant que grand prédateur, il est utile dans le Mont Ventoux ?
Alors là, c'est une bonne question. C'est chaque, pour moi, qui suis, j'allais dire, qui fait l'éducation de l'environnement, chaque chose a sa place. Si je vais de la bactérie en passant par le microbe et jusqu'à l'arrivée à l'homme sur tous ces animaux, toute cette présence, elle est utile. Le loup aujourd'hui, il est arrivé. Pourquoi il est arrivé ? Ben parce que à un moment donné, peut-être qu'on a laissé les forêts se remettre en place. Les agriculteurs sont malheureusement partis pour différentes raisons à la ville pour faire autre chose. Ça a créé des corridors. Ces corridors ont permis aux loups d'arriver. Il y avait une population de cervidés qui était assez forte sur le Mont Ventoux. Ça lui a permis de stabiliser. Alors après, est-ce que le grand prédateur est utile ? Oui, bien sûr qu'il est utile puisqu'il va réguler. Je sais que la régulation, elle est faite aujourd'hui par d'autres personnes, entre guillemets, mais quand même la régulation, initialement, c'est quand même la nature qui le fait, et elle le fait par ces grands prédateurs, que sont les lynx, que sont les loups. Aujourd'hui, on a 3 meutes qui sont présentes sur les sites, on a une vingtaine de loups présents sur le Mont Ventoux. Voilà, il va falloir commencer maintenant à réfléchir parce que entre-temps, ben, les éleveurs sont arrivés, ils ont pris du volume, ce qui est tout à fait normal. On a des grands troupeaux sur le Mont Ventoux avec les troupeaux de Montagard et autres. Et ben, il va falloir à un moment donné réfléchir comment vivre ensemble. Peut-être qu'il va falloir retirer quelques loups du territoire pour permettre justement d'avoir cet équilibre. Et puis avec le monde de la chasse aussi, hein, qu'il faut pas non plus négliger parce que ça a quand même un impact assez important sur les cervidés, les mouflons ou autres animaux.
Et la gestion de la forêt, c'est quelque chose d'important ?
Alors ça, c'est plutôt l'ONF qui, voilà. qui en parlera. Donc comme je disais, moi je suis plutôt un généraliste et pas un spécialiste. Mais en tant que généraliste, oui, la gestion de la forêt est intéressante. J'en parlais avec Ken hier, c'est assez original parce qu'on parlait de l'évolution qu'il allait avoir dans les prochaines années. Donc lui, il m'a donné un petit curseur à 50 ans parce que je lui parlais d'introduire un autre arbre sur le territoire. Mais si on prend notre Mont Ventoux et qu'on prend dans les années il y a 80 ans en arrière, eh bien on avait une espèce de montagne pelée où il y avait quasiment rien. Ensuite on a mis du cerveau de l'Atlas, on a mis du pin nord d'Autriche, et puis si on monte vers les hauteurs, on va retrouver par exemple du pin accroché, on peut trouver du pin sylvestre, et sur les piémonts beaucoup plus bas, on va trouver des forêts méditerranéennes, si on prend le cas de Rustrel par exemple, ou sur Bédouin à l'endroit où il y a les demoiselles de fées, vous avez du pin d'Alep, vous avez du pin méditerranéen, donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'espèces présentes, et avec une gestion qui est, alors je tiens à le dire, admirablement réalisé par l'ONF. C'est-à-dire que quand on regarde et que les gens parlent un petit peu, ils disent un peu n'importe quoi. D'exemple, la semaine dernière, j'étais en randonnée, et les gens disaient « Ah, regardez, c'est n'importe quoi, la forêt est sale parce qu'il y avait des troncs qui étaient par terre. » Ils disent « Ouais, ils pourraient quand même nettoyer. » Et bien là, on fait preuve de pédagogie, on leur explique « Non, non, la forêt n'est pas sale. Les troncs qui sont par terre permettent la reproduction, par exemple, des renards, des blaireaux ou autres, puisque les petits sont cachés à l'intérieur. » Ça permet aussi à des insectes exilophages, donc qui mangent le bois, de pouvoir se reproduire et se développer. Et ça permet de créer de la terre. Puisque je rappelle que la terre, elle est produite par le bois, les feuilles, etc., etc. Et cette dégradation qui va se faire par des bactéries ou d'autres trucs va permettre de pouvoir dégrader.
Juste une question, pourquoi est-ce qu'on réintroduirait une espèce d'arbre et laquelle ?
Alors ça c'est donc pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, donc c'est des questions à poser à l'ONF. Cependant, je peux quand même vous apporter une petite prévision entre guillemets. Il y a un changement climatique, ça serait dommage de l'oublier et de dire que ça n'existe pas. Et dans ce changement climatique, on voit bien que les températures variant, eh bien la nature va s'adapter par rapport à cette nouvelle température. Donc des arbres qui avaient besoin d'avoir du froid par exemple, beaucoup d'humidité, eh bien demain, si il y a des températures sont à 30 ou 30, 35 degrés assez courant sur le secteur, eh bien on verra qu'on va remonter du pin d'Alep ou du pin méditerranéen ou d'autres types qui vont arriver, j'allais dire, naturellement.
Ken, tu souhaites apporter une précision?
Oui, je trouve. Je remercie Daniel pour cet éclairage sur la gestion forestière. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que le Ventoux, c'est un lieu qui a une histoire forte sur de l'expérimentation forestière, sur de la réintroduction d'essences, qu'elles soient locales ou exogènes, étrangères. Il y a une histoire très forte dans l'histoire de la sylviculture en France, puisque c'était un massif complètement déboisé, et puis que les eaux et forêts, devenu aujourd'hui l'Office national des forêts, ont quand même fait preuve de beaucoup de recul, de sagesse et de savoir-faire. Je tiens à souligner ça parce que c'est vrai que ce territoire, le territoire du futur parc, est extrêmement forestier. Plus de 60% de la surface est forestière. Et sur ces 60%, la moitié globalement est publique. Ça veut dire qu'on a un interlocuteur qui est là, qui a un savoir-faire, qui a une expérience, qui a un recul et sur lequel il faut s'appuyer. Et c'est important parce que l'Office national des forêts, c'est aussi une garantie dans le temps. Voilà, des plans d'aménagement sur 25 ans, par exemple. Voilà, une garantie dans le temps de conduites qui sont menées. Et même si parfois on peut ne pas être d'accord sur certains points précis, ça reste des détails, moi, je trouve. Hein. Sur l'ensemble, l'objectif, c'est d'arriver à conserver ce patrimoine forestier, de valoriser cette histoire forestière très forte sur le Ventoux, et puis de se projeter vers l'avant, parce que c'est vrai que le climat va quand même tous, dans tous les domaines, mais dans celui de la forêt, va tous nous percuter. Donc c'est comment on anticipe ces éléments-là, avec des laboratoires de recherche qui sont très développés aussi sur le Ventoux, avec, je pense à l'INRA sur la forêt, a conduit énormément de travaux. Donc c'est comment tous ensemble, on arrive un peu à se projeter, à lever le nez du guidon, et se dire, la forêt, on ne plante pas un arbre ne pousse pas pour 10 ans. Quoi. Voilà, c'est des centaines d'années parfois, donc c'est comment on anticipe tout ça, parce qu'en effet, il va y avoir beaucoup de bouleversements à venir.
Daniel Villanova, maintenant, on va peut-être pouvoir parler de l'association Ventoux Passion Nature. Comment on peut vous rejoindre? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
L'association Ventoux Passion Nature donc, est une association qui sert justement à faire de l'éducation à l'environnement et aussi à former nos jeunes à rester sur le territoire. Donc si je prends le cas depuis la création, on a formé deux jeunes qui ont passé le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, qui sont même DE actuellement, et qui ont aussi passé licence, BTS, GPN, etc. dans le cas de l'association. Et on a formé une quinzaine de stagiaires sur du BTS, sur la licence, sur du master. Voilà, donc elle sert à ça. Elle sert aussi à promouvoir le territoire dans les activités de pleine nature, donc que sont par exemple le VTT, l'escalade, la randonnée ou d'autres sports. Hein. Je vois sur Sceaux, on a refait un site d'escalade, on a recréé avec justement la préfiguration du parc, on a recréé des sentiers de BTT. Donc on a ce développement qui se fait en interaction avec le parc, qui est assez intéressant.
Nous avons aussi autour de ce plateau pour cette émission Les Pieds dans le Parc, Mireille Gravier, donc agricultrice et membre du réseau Racine PACA. Alors tout d'abord, première question, c'est quoi le réseau Racine PACA?
Racine PACA, c'est tout simplement un réseau d'agriculteurs. C'est un groupe de travail au sein du réseau des CIVAM. Un groupe d'agriculteurs s'est constitué pour travailler autour de l'éducation à la ferme. Quand on dit éducation autour des fermes, c'est à la fois sur nos productions, mais aussi sur les thématiques du développement durable qui vont de l'environnement lui-même, mais aussi au rôle de citoyens que peuvent avoir les enfants et puis éventuellement les adultes que nous accueillons autour des gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire quand on va acheter son fromage de chèvre à la ferme ou son fromage de chèvre au supermarché, quand est-ce qu'on est dans la démarche de développement durable, voilà. Donc sur ce réseau, nous sommes actuellement une quinzaine d'agriculteurs répartis sur plusieurs départements de la région. Donc sur le Vaucluse, nous sommes 7. Il y a 4 collègues dans les Alpes de Haute-Provence, 4 dans les Bouches-du-Rhône, dans les Hautes-Alpes aussi. Et là, on est en attente de collègues qui nous rejoignent sur les Alpes-Maritimes et sur le Var. Et par rapport au périmètre du parc naturel régional Ventoux, nous sommes 4 qui pouvons accueillir actuellement sur nos fermes.
Alors Mireille, vous êtes donc oliculteur et vous avez un moulin à la ferme, donc à Pernes-les-Fontaines. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants ?
Moi, mon activité principale est donc l'oléiculture. Donc je mène une petite oliveraie de 3 hectares et demi. Et parallèlement à l'oliveraie, j'ai souhaité donc maîtriser complètement ma production. Et donc j'ai acheté il y a quelques années un moulin à huile. Et donc actuellement, c'est de l'huile d'olive 100% maison, vierge extra, en agriculture biologique.
À travers les productions, vous faites passer des messages. Quels sont-ils ? Le bio, par exemple ?
Oui, dans ce réseau Racine PACA, tous les collègues sont certifiés en bio ou en direction du bio, aussi bien chez les éleveurs que chez les producteurs de production végétale. Donc nous avons un message en effet à faire passer sur notre rôle, l'impact de l'agriculture sur l'environnement et pourquoi cet engagement en direction d'une agriculture, on va dire, plus naturelle. Et parallèlement à ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce rôle de consommateur que nous souhaitons vraiment mettre en avant dans nos interventions, faire comprendre aux plus jeunes que leurs choix de consommation ont des impacts à la fois sur l'environnement et au-delà de l'environnement, le territoire. La durabilité d'un territoire.
Alors le réseau Racine PACA, c'est aussi peut-être un rôle, montrer l'agriculteur sur son territoire, ce qu'il fait au quotidien.
Tout à fait, bien sûr. Il y a systématiquement une présentation de notre ferme et sous la plupart d'entre nous, au-delà de notre production, ben, nous avons aussi notre jardin potager, notre poulailler. C'est tout l'impact de notre ferme dans notre contexte, dans notre territoire.
D'abord, le réseau Racine PACA peut-être. Anne, est-ce que tu as une question sur ce réseau que tu souhaiterais poser ?
Depuis quand il existe ?
Alors c'est un réseau qui est très récent, qui est en émergence, on va dire, depuis 3 ans. Et là, je vous ai amené aujourd'hui la première vraie plaquette officielle et qui présente donc les activités, le site web où on peut trouver toutes les informations. Et comme je disais en introduction tout à l'heure, il est porté par les CIVAM, donc qui est un regroupement. En fait, voilà, je vais vous donner le sigle, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc le siège régional est à Cavaillon. Et pour épauler donc les projets, nous avons quelques techniciens qui sont là. Et qui nous aide à monter les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et dans ces thématiques, il y a la thématique accueil à la ferme qui est portée par une technicienne, Marion Gentil, voilà, qui nous aide à mettre en place ce projet depuis maintenant 3 ans.
Donc c'est un réseau qui existait déjà, mais qui, de par la création du parc, pourrait avoir un impact, se développer un peu plus ?
Alors, le réseau du parc, enfin, les agriculteurs qui sont dans le cadre du parc, évidemment, peuvent faire des interventions grâce au programme qui est mis en place, puisque donc le parc va financer des interventions et vont pouvoir permettre à des classes de venir chez nous ou d'aller dans les écoles. Mais les autres collègues ne sont pas systématiquement dans des parcs naturels régionaux, même si nous avons un collègue sur le parc du Verdon, 2 sur le parc du Luberon. Donc il y a en effet des interactions qui peuvent se mettre en place entre les PNR et le réseau Racine PACA.
Donc on pourrait venir voir aussi arriver de nouveaux adhérents dans ce réseau du fait du développement du parc ?
Pour le moment, les adhésions se font déjà par une très très forte motivation et d'implication dans la vie associative et dans l'éducation sur la ferme, sachant que c'est souvent compliqué pour les collègues d'être à la fois producteurs et faire de l'éducation à l'environnement.
Mais j'imagine qu'il y a une charte et des engagements.
Voilà, il y a une charte à respecter. Et en fait, on se rend compte qu'il est compliqué de mener les deux de front et que souvent, on a peu de temps
à consacrer
à l'accueil.
Ouais, tout à fait.
Donc pour le moment, non, on n'a pas senti de nouvelles recrues potentielles avec l'arrivée du parc sur le territoire. Mais par contre, ça va permettre de renforcer les actions qui sont déjà en place.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a aussi tout au long de l'année des actions pédagogiques, des actions scolaires que vous réalisez sur les fermes?
Nous, sur les fermes, dans le réseau, donc au-delà de l'accueil pédagogique, on a des collègues qui se sont spécialisés sur l'accueil social. Et puis après, nous avons aussi l'accueil du grand public lors d'événements, puisque le GR CIVAM pilote aussi l'opération de ferme en ferme. Donc la plupart d'entre nous participent à cette opération chaque dernier week-end d'avril. Et moi, par exemple, en partenariat là avec le PNR, je participe à Ventoux Saveur, et ce samedi, et également la chevrière de Pernes, qui est aussi dans le réseau Racine PACA, Julie Christol, toutes les deux, nous participons à Ventoux Saveur Nature, puisque nous ouvrons nos portes samedi 19 octobre.
Merci Mireille Gravier, donc membre du réseau Racine PACA. Ken, tu avais peut-être aussi quelque chose à rajouter.
Oui, j'aimerais juste rebondir en fait sur ce que Daniel et Mireille ont souligné. C'est vrai que pour nous, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur des professionnels, sur des gens compétents sur différents domaines. On parle d'agriculture, on parle de nature, on peut parler de climat, on peut parler de géologie, d'eau, de déchets. Il y a beaucoup de sujets, parce que l'éducation à l'environnement et au territoire, c'est extrêmement transversal. Il y a une vingtaine d'intervenants qui sont mobilisés autour du programme pédagogique que l'on met en œuvre dans les écoles, les collèges et les lycées, comme le soulignait Laurence. Et c'est vrai que tout ça, c'est aussi le fruit d'un besoin de l'éducation nationale. Voilà, il y a un besoin de renforcer l'éducation au territoire dans un milieu scolaire. Et ça, c'est le rôle des parcs, de vraiment contribuer à cela. Et puis ça a permis de monter un partenariat très étroit avec le ministère. Et je trouve justement que la présence de Virginie est aussi le reflet aux côtés des intervenants sur un volet en plus très particulier qui est la sauvegarde du Provençal, qui est un peu l'identité de notre pays. Voilà, et du parc, c'est aussi, ça y participe. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire le lien avec les intervenants, avec le milieu enseignant. Et c'est vraiment la force, moi, je trouve, de cet objectif scolaire, d'éducation au milieu scolaire, et puis de force du parc sur ce créneau-là.
Alors, je vous propose qu'on revienne dans quelques instants sur cette émission Les Pieds dans le Parc, où on parle de sensibilisation à l'éducation, à l'environnement et au territoire. Et on reviendra justement avec Virginie Bigonnet, donc sur professeur de Provençal, sur la sauvegarde de la langue provençale. Ken, on y reviendra dans quelques instants. Juste après une courte pause musicale. À tout de suite.
Au sol, la sono, c'est la Jamaïco, petit putain, les mots. Animons le maquis, j'ai fini mon raquis, passe-moi le Mikey. L'un des discours des méchants falous, paix et trouve à l'amour. C'est la révolution, les radars en action, l'OA est notre mission. Les cris d'ANCM, vous les vieux rébés, c'est du sens au pagaré. Lâche un peu le chrono, danse comme un nino, ne fais pas le chrono. Qu'est-ce bon de danser, d'estre à massa. C'est bon pour ce que tu as. Si tu te sens fatigué, écoute mon vieux reggae. D'un coup ça te rajeunit, tu oublies la pharmacie. On a du reggae occitan qui plaira à tes enfants. Du reggae jamaïcain, du reggae sud-américain. Du reggae pour les mariages et pour les embouteillages. On t'en sert à l'apéritif. Filles et garçons, mescladin l'ousou. A refuero leite boum.
On va faire du bruit et repousser l'ennui jusqu'au bout de la nuit.
Pex estrambouda, si maître fracas, rire comme une ascla.
Tous à égalité, vive l'humanité, la solidarité.
Vous écoutez Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEB, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Et De retour dans l'émission Les Pieds dans le Parc numéro 4 avec nos invités aujourd'hui, Laurence Veillard, chargée de mission éducation au territoire et développement durable au SMAEB. Rebonjour Laurence.
Et rebonjour.
Nous avons aussi toujours avec nous Ken Reyna qui est chef de projet au parc naturel régional du SMAEB. Bonjour.
Rebonjour.
Et nous avons aussi toujours l'association Ventoux Passion Nature avec Daniel Villanova qui est donc accompagnateur en montagne.
Bonjour.
Et Mireille Gravier, agricultrice, membre du réseau Racine Canopée. Rebonjour.
Bonjour.
Et Virginie Bigonnet-Ballet, qui est professeure de Provençal pour la sauvegarde de la langue provençale. Et justement, on va attaquer sur ce sujet avec peut-être nous présenter votre travail au quotidien et puis un projet aussi que vous faites avec les 6e tout au long de l'année sur justement la sauvegarde de la langue provençale.
Oui, effectivement. Pour moi, le Ventoux, c'est aussi des gens et donc c'est aussi une langue. L'important, c'est toute la culture qui va avec. C'est arriver à transmettre une façon de vivre, le fait d'être bien à l'endroit où on est et de s'approprier vraiment son territoire, de s'approprier son lieu de vie. Ben, non seulement par la connaissance des endroits, du milieu, mais par la connaissance de la langue, des gens qui y vivent. Faire du lien avec les autres générations. Je crois beaucoup à l'intergénérationnel parce que je trouve que nos élèves ont vraiment besoin de connaître ces grands-parents, ces savoirs qui sont transmis. Parce que souvent, on a tendance à dire oh oui, bon, les vieux, si. Mais non, il faut vraiment que les enfants prennent conscience que, en discutant. En échangeant, on apprend beaucoup. Alors c'est vrai que dans le cadre du parc, on a souvent eu l'occasion de faire des projets divers et variés. On a fait certaines années des projets de collectage où les enfants allaient enregistrer les anciens, en provençal bien sûr, récupérer des comptines, les ont montées en spectacle avec le groupe Tankélicien par exemple. Ça aboutit ensuite sur des comptines provençales qu'on a pu mettre en ligne parce que on se rend compte que ce patrimoine-là, il est à disparaître puisqu'il n'y a plus de transmission dans les familles, la transmission n'est plus naturelle. Alors du coup, on trouve les moyens modernes pour arriver à faire en sorte que les gens puissent garder et que les nouvelles générations apprennent ces petites comptines, ces histoires. Un peu dans le même cadre, on a fait l'année dernière des enregistrements avec RTVFM, avec des personnes qui connaissent bien le Ventoux. Alors là, le projet était plus large. On avait le parc nous a financé des interventions diverses, d'une conteuse entre autres. Le but était ensuite c'était Marthe Rare, et le but ensuite était de créer un conte nous-mêmes sur le Ventoux. Alors les classes se sont mises au boulot, mais pour ça il fallait qu'ils aient des éléments. Et alors on a fait une sortie dans le Ventoux avec Ventoux Passion Nature. On a enregistré beaucoup de personnes et à partir de là les enfants avaient une matière pour pouvoir créer. Et on a en plus rajouté une partie musicale avec Tankélicien qui eux ont réussi à nous faire à nous mettre en musique et faire mettre en musique aussi aux enfants. Ça c'est très chouette, des parties de ce conte qu'on passait en provençal en musique. Donc c'est des projets comme ça qui partent peut-être un peu dans tous les sens, mais qui sont complets, qui touchent beaucoup de disciplines et qui font que les enfants ensuite se reconnaissent dans ce territoire. Après, quand on reparle, on évoque un charbonnier. Ah oui, on avait un tel nous avait raconté, etc. Puis on parle d'un animal. Ah oui, comme dans le conte qu'on avait vu, qu'on avait entendu. Enfin, donc voilà, les choses prennent vie et deviennent vraiment vraiment concrètes. Je crois que ça c'est un des défis. Et en même temps, lier la langue à tout ça, c'est un bonheur, c'est une richesse.
Vous êtes aussi membre d'une association. Alors, je ne vais pas prononcer le nom en provençal. Vous avez peut-être.
Je vais le faire moi. L'association Es Provença ou Langue Vive. Es Provençal, Langue Vivante. Alors, c'est une association qui a per toc la défense de la langue provençale vers l'imaïdjouiné, parce que c'est le public qui est le plus en difficulté. Hein. On se rend bien compte que la transmission de la langue s'est faite jusqu'à la génération, pour moi, de mes grands-parents. Et puis ensuite, la langue n'a plus été transmise naturellement. Donc effectivement, on a l'éducation nationale qui a accordé depuis quelques années, enfin depuis une vingtaine d'années, un peu plus, un CAPES, Occitan Languedoc, qui permet à être une vingtaine sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à enseigner, mais c'est largement insuffisant, parce qu'en plus, on enseigne une ou deux heures par semaine. Donc on a besoin, en plus, d'avoir des renforts. Alors, le renfort, on l'a par le parc qui finance des interventions supplémentaires qui nous permettent d'étoffer un petit peu ce nombre d'heures parce que ça fait des journées de sortie, ça fait des gens qui viennent, qui apportent des choses différentes. Mais le milieu associatif est lui aussi extrêmement important. C'est un peu la base pour que les jeunes puissent pratiquer la langue. Alors là, on a créé depuis bientôt 20 ans un stage d'immersion pour les jeunes. Donc là, on se retrouve pendant quelques jours dans divers endroits. Ça a démarré au Ventoux, justement. Et donc, on parle la langue d'une façon tout à fait ludique. C'est comme une colo en provençal. Et on se rend compte que cette langue a la chance d'être très vite réapprise par rapport à nos collègues bretons ou basques qui ont un gros boulot. Nous, on part quand même d'une langue latine. Mmh. Pour peu qu'on connaisse un peu d'italien, un peu d'espagnol, ça va extrêmement vite. En quelques jours, les enfants arrivent à tout comprendre et à vraiment commencer à bien parler. Ça, c'est une chance énorme. Alors, on se dit la langue va mal, effectivement, mais en même temps, on a ce potentiel d'inversion un peu de la tendance en très peu de temps.
Vous avez parlé aussi de stages d'immersion avec des jeunes et vous faites aussi des stages d'immersion en langue provençale avec des adultes.
Alors ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est parce qu'effectivement, en fait, il n'y a pas que les jeunes de jusqu'à 18 ans qui ont perdu la langue. On se rend compte que la génération d'avant, des parents, l'ont aussi perdue. Et j'ai énormément de parents d'élèves qui aimeraient aussi réapprendre la langue. Alors, ils regardent bien le cahier de leur élève, de leur enfant, je veux dire, le soir en rentrant. Mais voilà, à la demande de pas mal de personnes, on s'est dit, pourquoi pas aussi proposer sur le territoire un stage d'immersion pour des adultes. Alors, on commence petit, on commence avec 2 jours à Caron. Ce sera le 1er 2 novembre à la médiathèque de Caron. On a essayé de trouver une formule aussi pas très onéreuse parce que le but, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Donc avec 35 euros, on arrive à peu près à s'en sortir. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de se réapproprier cette langue avec des cours. Là, ce sera vraiment des cours, des éléments concrets pour aller très vite. Et puis, on veut aussi toute une partie pédagogique. Et là, ça rejoint un peu le projet du parc. C'est qu'on s'adresse aussi à tous les instituteurs, maîtres d'école ou profs qui ont envie dans leur classe de transmettre un peu cette langue, cette culture. Et donc, on va faire tout un atelier sur comment transmettre la langue, quels sont les outils qu'on peut avoir pour arriver à transmettre la langue. Et donc, donner un peu des clés. Sur Internet, on commence à mettre pas mal de choses. L'idée, c'est vraiment de former des gens qui puissent, à leur tour, former et répandre un peu le provençal autour d'eux. Alors, ça peut être aussi dans la famille, des grands-parents qui recommencent à parler à leurs petits-enfants, des parents qui ont le provençal dans l'oreille et qui arrivent à dire quelques mots. Alors, si à la maison, quand on met la table, on peut parler de nom un peu la ça ou un peu d'aïe, vos un peu d'aïe, des petites phrases comme ça qui se sont dites pendant longtemps, qui sont peut-être en train de se perdre et qu'on peut. On peut redonner vie rapidement à certains éléments.
Est-ce que ça vous arrive dans l'année de travailler avec des intervenants que nous avons autour de la table aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait.
Avec qui, par exemple?
J'ai travaillé avec tout le monde. Donc, ce que j'aime bien, c'est avoir des projets variés. Donc, on a fait des sorties avec Ventoux Passion Nature, avec Mireille Gravier il y a plus longtemps quand j'étais sur Perne aussi. L'idée, c'est que ce soit riche et que les enfants prennent du plaisir à découvrir leur territoire, et plus il y a d'intervenants extérieurs, plus c'est riche et varié, ça c'est sûr.
Ken?
Oui, moi je veux juste peut-être partager avec vous quelque chose d'un peu personnel en fait. Les gens de ma génération, 40-45 ans, on n'a pas eu la chance d'avoir la possibilité d'apprendre le provençal à l'école. C'était soit par la transmission de la famille, alors moi j'étais pas forcément originaire du Ventoux, mais un peu d'italien, un peu d'espagnol, un peu tout ça, comme tu as dit Virginie. Finalement, ça reste dans l'oreille et on a des mots qui viennent. Et comment imaginer les Corses sans la langue corse, les Bretons sans le breton, les Catalans sans le catalan, et puis Metz, le Ventoux, sans le provençal. Quoi. Mmh. Et nos enfants, aujourd'hui, ont la possibilité d'avoir ce soutien-là. Et moi, c'est vrai que quand on a travaillé sur le projet de parc, je me rappelle, certains partenaires nous disaient, ça les faisait sourire, mais vraiment, mais dans le sens négatif du terme. Le fait que le parc dise, on va sauvegarder le provençal et on y va, quoi. il faut le faire. L'UNESCO a prévu quasiment la disparition de la moitié des langues à la fin du 21e siècle, quoi, des langues locales. Enfin, il y a quand même quelque chose qui interpelle. On parle de biodiversité, des fondements de la biodiversité, etc. Mais enfin, c'est un patrimoine humain et matériel qui est en train de se mourir. Et sur le provençal, nous, on disait, bah non, attendez, le provençal, c'est pas forcément un truc poussiéreux, quoi. Il faut que ce soit vivant. Et je trouve que ce que dit Virginie, on sent bien qu'il y a une volonté de le faire vivre. C'est pas un truc que pour les anciens, c'est aussi pour les jeunes. Enfin, c'est pas mort, quoi. Voilà, il y a encore des choses qui se font. Et même si, ben, nous, on n'a pas tous eu la chance de pouvoir le parler couramment, mais qu'on comprend des choses, voilà, ben, notre job aussi, c'est de faire en sorte que, ben, on se le réapproprie, puis que nos petits, ben, ils perdent pas le lien aussi avec les anciens. Et on regarde vers l'avenir. Et le provençal, encore une fois, c'est pas quelque chose de passéiste, c'est pas ringard, quoi, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve que ça peut être hyper vivant. Et il y a des choses très positives, pleines de valeurs qui sont derrière, qui sont là à sauvegarder, quoi.
Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu dis que même si on n'est pas originaire d'ici, le provençal, ça peut aussi nous concerner. Ça, c'est vraiment pour moi une langue qui peut porter une intégration, parce que dans la mesure où on habite ici, ben voilà, on est chez nous. Et il ne faut pas avoir forcément le grand-père, l'arrière-grand-père qui a le, voilà, estampillé provençal. Et moi, j'ai des enfants qui sont des enfants d'immigrés, mais qui connaissent finalement, en prenant l'option provençale, mieux le territoire que des enfants qui habitent ici depuis toujours ou qui ont plusieurs générations.
Moi, le peu de temps où j'ai passé pour essayer de me donner quelques bases en provençal avec Lidjane Doubres. On était quelques gens d'ici, quelques personnes originaires du Ventoux. Et il y avait une dame qui était d'origine de Belgique et une dame qui était parisienne et qui était là en disant « Ce pays est magnifique. J'habite au pied du Ventoux parce que je trouve ça superbe. Il y a un climat, il y a une ambiance, il y a une culture. » Ça paraît évident pour moi aussi que je prolonge cet amour pour ce territoire-là en apprenant un minimum la langue locale. Et ça rejoint ce que tu dis.
Ouais, et puis se réapproprier la langue, c'est aussi mieux comprendre des choses comme la toponymie. On en parlait avec Mireille tout à l'heure, hors antenne. C'est vrai que connaître les noms de lieux, quand on se promène et comprendre pourquoi est-ce que tel endroit, le Mour, qu'est-ce que c'est un Mour, bon, ben, voilà, on a plein de choses comme ça, de petits mots. Quand on les comprend parce qu'on a fait un peu de provençal, ben, on lit mieux notre paysage. On connaît mieux notre territoire, c'est ça, c'est riche aussi.
Et le nom des fois de la ville aussi qui est marqué sous le panneau, ça en fait partie.
Tout à fait. Hein.
Alors on a entendu il y a quelques mois des fermetures de classes justement de provençal. Est-ce que aussi vous êtes soutenu localement pour éviter ces fermetures localement, régionalement, et est-ce que le parc peut aussi peut-être aider à ça?
Oui, non seulement lutter contre les fermetures. Là, on a un gros souci sur les lycées puisque au niveau de la réforme du bac, ça met un petit peu à mal l'enseignement du provençal. Bon, on pense que c'est pas que ça va bouger, mais il faut tenir bon pendant tout ce temps-là, en attendant qu'une nouvelle réforme arrive. Il y a aussi le projet, avec entre autres l'école d'Ouventour, d'arriver à ouvrir des choses sur les écoles primaires, parce que pour le moment, sur le territoire, les collèges marchent très très bien. Je donne l'exemple de Mazan, hein, il y a plus d'une centaine d'élèves qui choisissent l'option sur le collège. Donc c'est un gros pourcentage d'enfants qui, par tradition familiale ou par goût personnel ou par curiosité, décident de se mettre au Provençal. Mais voilà, il faut aussi faire un travail sur les écoles. Peut-être là, on va devoir faire appel au parc pour former des intervenants, pour arriver à avoir des gens qui vont réussir à transmettre ça aux plus petits, parce que on est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas très nombreux à être financés par l'éducation nationale. Donc là, le milieu associatif va être important, les intervenants extérieurs aussi, l'Europe sans doute, mais bon, l'Europe passe aussi par le parc, c'est un vecteur aussi. Donc on compte sur ce réseau-là pour arriver à garder cette langue et cette culture, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut garder la culture, on ne peut pas éradiquer non plus les mots qui vont avec et les mots qui l'ont porté.
Virginie, on va peut-être revenir sur votre association. Je voudrais que vous nous la représentiez, mais où est située l'association et comment on peut peut-être soutenir tout au long de l'année les différents projets qui sont organisés?
Alors, l'association, on est sur Caron, donc voilà, on va être en plein parc. Et c'est vrai que pour soutenir, ben, y a plusieurs façons de faire, mais entre autres, de participer à ce qu'on organise. Le 2 novembre au soir, par exemple, on organise un grand ballet, ça c'est le nom du bal folk provençal, parce que la culture, elle se vit par des moments de convivialité, par des moments de plaisir, de joie. Donc là, il y a un petit groupe qui est en train de se mettre en place avec les musiciens de l'association. Alors, on ne sait pas comment on va les appeler. Si on dit ballet, on dit coucourde, parce que ça se passe à la Toussaint, ou si on va appeler ça la bande d'abord. partout bien, voilà, on cherche encore, mais l'idée c'est voilà, de partager du bonheur et de la joie de vivre ensemble, et de la joie aussi intergénérationnelle, parce que dans ces bals folk, très souvent, il y a des tout petits qui dansent, mais aussi des plus anciens. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut voilà, décloisonner un petit peu et créer une façon de vivre qui est festive et joyeuse.
Merci Virginie Bigonnet-Ballet. Donc je rappelle, vous êtes professeure de Provençal et pour la sauvegarde de la langue provençale, vous venez de nous présenter aussi votre association. Je vais revenir quelques instants sur Mireille Gravier, donc, qui est membre du réseau Racine PACA. Mireille, vous avez eu récemment un agrément de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Donc l'association, évidemment, un des objectifs, c'est de pouvoir travailler dans les écoles. Et pour pouvoir travailler dans les écoles, l'idéal, c'est d'avoir l'aval de la hiérarchie. Donc le réseau Racine PACA, dès sa création, dès que nous avons commencé à travailler sur la mise en place de nos actions, nous avons organisé une formation en partenariat avec des inspecteurs de l'éducation nationale qui nous ont incités à demander cet agrément, dont le dossier a été constitué et a été validé il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, nous pouvons mettre le petit tampon qui est, on va dire, un peu un sésame pour pouvoir travailler dans toutes les écoles de nos territoires.
Merci Mireille Gravier, voilà, donc, pour faire le point sur cet agrément. Je vais peut-être revenir vers Laurence Veillard, puisque tout à l'heure on parlait donc, de mission éducation au territoire et au développement durable, donc c'est le thème sensibilisation, éducation et l'environnement et au territoire, c'est le thème de cette émission d'aujourd'hui, je le rappelle. Laurence, il y a des événements qui sont organisés récemment avec des étudiants, notamment sur le cadre du zéro phyto, avec donc, des interventions dans les cimetières pour remettre en valorisation un petit peu ces cimetières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors en effet, donc c'est vrai que là en ce moment on est en plein dedans puisqu'on était sur des chantiers participatifs à Ville-sur-Ozon et donc cette semaine à Carpentras. Donc ça c'est une action qu'on a débutée il y a déjà plusieurs années puisque vous l'avez dit, c'est en lien avec le zéro phyto. Les communes, elles y sont passées en 2017. Donc on avait à l'époque, avant cette date, organisé des sessions de formation pour les agents espaces verts des communes du territoire du projet de parc. Et aujourd'hui, une fois la réglementation passée, en fait, on a décidé de travailler sur 4 cimetières pilotes, parce que les cimetières sont un peu des sites particuliers où on mélange à la fois des sites à la fois privés et publics. Et le passage au zéro phyto, donc plus de produits, bah, ce sont un petit peu des herbes folles de partout. Et sur ce type de lieu, c'est assez mal vécu par les familles des défunts, ce qui se comprend. Et nous, notre particularité, en fait, c'est de donc en travaillant sur ces zones pilotes. Donc on travaille avec un éco-paysagiste, c'est de proposer à la population de venir végétaliser le cimetière, parce que la seule solution au niveau du cimetière pour passer au zéro phyto, c'est en fait de fleurir des coins et des recoins où la machine ou la solution mécanique ne peut pas passer. Du coup, en même temps, on embellit le cimetière. En plus, on le fait avant le 1er novembre, donc c'est assez bien vécu. Et on le fait surtout sous la forme de chantier participatif, parce qu'en effet, les gens ont besoin de comprendre pourquoi on fait ça sur leur cimetière, et en les invitant, on leur explique toute la démarche.
Laurence, voilà. ce que je vous propose, juste on va finir l'émission, mais on va écouter un interview qui a été réalisée récemment par l'équipe d'RTVFM. C'est à Ville-sur-Ozon justement, avec des élèves de CP, CE1 et leur enseignante, sur la végétalisation justement du cimetière de Ville-sur-Ozon. Et on va aussi retrouver Benoît qui est conseiller éco-paysagiste. On va l'écouter tout de suite.
Madame De Feuillet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignante à l'école primaire Ville-sur-Ozon et aujourd'hui nous sommes au cimetière de Ville-sur-Ozon dans le cadre d'une revégétalisation des espaces. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pourquoi vous avez amené vos élèves ici aujourd'hui et pourquoi vous êtes associée à ce projet ?
Alors parce que l'école participe toujours au projet de la commune et puis on a trouvé que c'était une belle idée de revégétaliser le cimetière. On travaille depuis de nombreuses années avec les enfants sur la biodiversité et on trouvait que réinvestir le cimetière c'était aussi une belle occasion pour les enfants. Parce que ce n'est pas toujours un lieu qui fréquente.
Alors ce sont des CP et CE1, parce que vous voulez sensibiliser à la non-utilisation, je dirais, des pesticides, au fait qu'on est dans une société qu'il faut de plus en plus éviter justement cette pollution par les pesticides.
Oui, ils sont très sensibilisés à ça, parce que ça fait plusieurs années justement qu'on fait des projets avec le SMAEB, avec la réserve de biosphère, donc ils sont pas mal au courant de ce... de ce problème-là, sur plein de choses qui touchent à l'environnement. Ils sont plutôt bien au fait de la situation.
Alors aujourd'hui, là, ils sont devant nous, ils sont en train de planter, on les entendait un petit peu tout à l'heure. Comment ça se passe justement avec votre classe dans le cadre de la plantation? Comment vous y êtes pris justement?
Alors on en a déjà parlé en classe. En plus, comme on est une petite école, on suit les enfants. Donc ils ont déjà planté à d'autres occasions. Donc ils connaissent quand même bien le fonctionnement de tout ça.
Des variétés, je suppose, qui résistent à la sécheresse?
Oui, tout à fait. Ce sont des plantes, on va dire, adaptées à la sécheresse. Et puis on plante du local, évidemment. On plante pas des choses inadaptées à notre climat.
Alors si vous voulez, on peut s'approcher peut-être un petit peu des enfants. Agathe. Alors Agathe, dis-moi, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure?
Je suis en train de planter une plante.
Oui.
Et voilà.
Alors le fait d'être dans un cimetière, qu'est-ce que ça te fait justement? C'est pas un endroit où en général les enfants, on peut dire, jouent?
Ça me fait très plaisir.
Ça te fait très plaisir. Alors toi, c'est Agathe, peut-être Rose lui poser un petit peu la même question. Est-ce que Rose, toi, tu aimes jardiner avec tes parents? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps?
Je jardine avec mon papa à la maison parce qu'il adore planter des plantes, il adore quand c'est joli. Il plante même des fleurs à son terrain pour qu'il soit joli, joli parce qu'il est bûcheron.
Alors, Agathe, donc tu es en train un petit peu de planter aujourd'hui. C'est Madame De Feuillet, donc ton enseignante, votre maîtresse. Tu es venue avec ta maîtresse, Madame De Feuillet. Est-ce qu'elle t'a parlé un petit peu de toutes ces plantations, de ce que tu plantes aujourd'hui? Et est-ce qu'en plus, au niveau des pesticides, est-ce que toi, ça te dit quelque chose quand je te dis plus mettre des pesticides ou des produits phytosanitaires? Est-ce que ça te parle ou pas?
C'est des produits toxiques c'est des produits chimiques pour enlever les mauvaises herbes, et après ça abîme la nature, et après les cimetières, après il y a des gens qui ne veulent pas venir, donc nous on va fleurir un cimetière pour que ce soit plus joli, et pour enlever tout ce qui est moche, comme les mauvaises herbes, qu'on enlève avec des produits toxiques, et après ça se met dans l'air, donc après c'est pas bon pour nous, donc après c'est pas très bon.
Merci Rose. Et toi Agathe, au niveau des produits, des pesticides ou des produits phytosanitaires, est-ce que ça te parle, et est-ce que tu pars du principe qu'il faut éviter justement d'en mettre pour éviter de polluer?
Parce que c'est pas bon pour la nature, ça peut tuer aussi sinon les insectes.
En tout cas, c'est très gentil. Madame De Feuillet, peut-être le mot de la fin à rajouter avec tous ces élèves aujourd'hui?
Nous sommes ravis de participer à cette opération parce qu'on trouve que c'est vraiment une belle opération.
En tout cas, merci Madame De Feuillet. Je rappelle que vous êtes enseignante de CP, CE1 à l'école primaire de Ville-sur-Ozon et vous étiez accompagnée de vos élèves qui sont en train justement de revégétaliser le cimetière de Ville-sur-Ozon. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà, donc vous venez d'entendre à l'instant les élèves de CPECE1 ainsi que leur enseignante pour la végétalisation du cimetière de Ville-sur-Ozon. Dernière question, Laurence Veillard, il y a un appel à projet qui est en cours actuellement et qui est lancé sur le programme pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, eh bien, écoute, comme chaque année, en fait, on lance l'appel à projet. Donc, les directeurs reçoivent un courrier, c'est tout simple, hein, c'est une démarche qui n'est pas du tout compliquée. On demande une préinscription des enseignants, donc ils nous font part de l'idée de leur projet. Ils nous disent à peu près combien il y a de classes, s'ils peuvent financer des sorties de bus, etc. Moi, après, je retourne vers eux, je retravaille le projet avec eux, je leur propose des intervenants et des interventions. Ensuite, ils écrivent leur projet parce que le projet est vraiment travaillé par l'enseignant. Ils ont besoin de faire valider ce projet-là au niveau de l'éducation nationale, ce qui est obligatoire à notre niveau, parce qu'on travaille vraiment en partenariat avec l'éducation nationale. Et ensuite, et ben voilà, je les laisse avec les intervenants. C'est des projets qui sont développés sur l'année. Et du coup, là, ce qui est c'est pas l'anecdote, c'est que là, avec le projet de parc, on va accompagner en fait sur 15 ans la scolarité d'un enfant. On va l'amener jusqu'au bac à 18 ans. Donc c'est assez sympa, c'est un beau défi, c'est une belle mission. Voilà.
Ben c'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer cette émission numéro 4 des pieds dans le parc. Merci à vous tous. Donc je rappelle Laurence Veillard, donc chargée de mission éducation au territoire et au développement durable au SMAEV, Kenrea, chef de projet parc naturel régional du SMAEV, l'association Ventoux Passion Nature représentée par Daniel Villanova qui est accompagnateur en montagne notamment. Merci aussi à Mireille Gravier, agricultrice et membre du réseau Racine PACA, et merci aussi à Virginie Bigonnet-Ballet, donc professeur de Provençal, sauvegarde de la langue provençale. Merci à vous tous pour cette émission, et puis merci aussi à Anne pour la co-animation de cette émission, et puis on se retrouve prochainement sur les ondes d'RTVFN pour une prochaine émission et pour aussi les chroniques Les Pieds dans le Parc.
Parc. Vous retrouverez aussi toutes les infos des intervenants que nous avons actuellement autour de cette table sur notre podcast, sur le site internet de la radio www.rtvfm.net. Vous aurez toutes les infos. À très bientôt sur l'antenne d'RTVFM et puis merci à vous tous et puis peut-être une prochaine fois sur les ondes de la radio.
À très bientôt.
Grand merci.
À bientôt. Et bienvenue dans nos fermes.
Vous venez d'écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.